Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Le 8 mai 1982, c'est une date qui va rester gravée dans la mémoire des Québécois pour encore longtemps, surtout les Québécois amateurs de sport automobile. C'est la date du tragique décès du pilote québécois Gilles Villeneuve. Donc, cette année, on souligne les 40 ans du décès de Gilles Villeneuve. Puis, dans l'équipe du Guide de l'Auto, on a voulu souligner ça en grand avec, vous l'avez peut-être lu déjà, dans les pages du Guide de l'Auto 2022, il y a un reportage sur la vie de Gilles Villeneuve, surtout ses années au Québec avant son ascension en Formule 1. Puis, à l'aube du 40e anniversaire de son décès, bien, on lance une série de balados sur les ondes de Cube Radio. Puis, je suis avec Julien Amado, mon collègue et instigateur de ce projet-là. Salut, Julien.
Allô, Frédéric.
Julien, ben d'abord, revenons sur les faits. Là. Ça va faire 40 ans que Gilles Villeneuve est décédé. Pour les plus jeunes ou ceux qui ont la mémoire peut-être un peu plus courte, peux-tu peut-être me résumer qu'est-ce qui s'est passé le 8 mai 82?
Oui, en fait, le 8 mai 82, c'est toutes les personnes à qui j'en ai parlé qui étaient présentes ce jour-là à un endroit précis se souviennent exactement de ce qu'elles faisaient. Puisque Gilles était aux essais du Grand Prix de Belgique à Zolder. Et en fait, malheureusement, avec un autre pilote, Jochen Mass, ils ne se sont pas compris. Et en fait, ils ont fait le même mouvement en même temps. C'est-à-dire que en fait, Jochen Mass s'est dit « Ah, ben, quelqu'un arrive derrière et qui est plus rapide que moi, je vais me tasser à droite pour lui laisser la bonne trajectoire. » Et Gilles a dit « Oh, il y a quelqu'un à gauche, je vais aller à droite parce que je roule beaucoup plus vite. » Et comme les deux ont fait le mouvement au même moment, Gilles a décollé sur la voiture de Jochen Mass. Il a fait des tonneaux, il a capoté, il a même été éjecté de la voiture et malheureusement, il a été tué à cette occasion-là.
Un bête accident, on pourrait dire. On sait. C'est encore vrai aujourd'hui, mais ça l'était encore plus à l'époque. Les pilotes, à chaque fois qu'ils montaient dans leur véhicule, risquaient carrément leur vie. Il y avait des décès. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'il n'y a pas eu de décès en Formule 1. Puis on va toucher du bois pour que ça reste comme ça. Mais ça, je sais que ça a frappé un peuple. Je sais aussi que t'étais pas né au moment où c'est arrivé. Moi non plus, on est né dans les années 80, les deux, mais un petit peu plus tard. Puis toi, tu viens de France. On l'entend par l'accent. Bref, t'étais pas né quand c'est arrivé. Tu viens pas du Québec, même si t'es Canadien maintenant. T'habites ici depuis longtemps. Puis, dans le premier épisode de cette série de balados-là, qui va être en 7 épisodes, que j'ai eu l'occasion d'écouter déjà, tu dis que la première chose que tu as faite quand tu es arrivé au Québec, c'est d'aller sur le circuit Gilles Villeneuve à l'Île-Sainte-Hélène, puis d'aller voir l'inscription « Salut Gilles ». C'est vraiment ça que tu as fait? Est-ce que le balado est romancé un peu ou c'est vraiment ça qui s'est passé?
Ouais, si je dois être tout à fait honnête, on a atterri genre à 14h, là, mais t'es jet-lag et tout, là, fait que moi je me suis couché, mais le lendemain je suis parti à l'île Notre-Dame et je suis allé voir, j'ai fait le tour du circuit à pied et je me suis rendu devant l'inscription « Salut Gilles » effectivement. Ouais. J'avais pas eu de voiture. Je serais allé au musée Gilles Villeneuve si j'avais pu, mais j'étais un peu étudiant et un peu jeune, désargenté à l'époque. Ouais. Fait que j'avais pas les moyens de louer une auto en plus du voyage que j'avais fait.
Le musée qui est à Berthierville.
Ouais, le musée de Berthier. Là, j'y suis retourné évidemment à l'occasion du balado, mais par contre, à l'époque, je l'avais pas fait. Mais ouais, ça, je l'ai fait. Puis, pour l'anecdote, la deuxième affaire que j'ai faite, je suis allé dans un Renault Bray voir c'était quoi la presse automobile et j'ai lu le guide de l'auto dans un Renault Bray.
Média pour lequel tu travailles maintenant.
Exact. L'histoire est belle.
Tout est dans tout. Excellent. Ben écoute, c'est ça. Un balado, bref, qui porte vraiment sur la vie de Gilles Villeneuve. Je le disais tantôt, t'as également rédigé un dossier sur Gilles Villeneuve qu'on peut lire dans le guide de l'Auto 2022. C'est quoi la différence entre ces deux projets-là? Est-ce que l'approche était similaire ou est-ce que t'as essayé d'aller creuser davantage dans le projet du balado?
En fait, l'approche, elle est similaire au départ. C'est que je voyais que les 40 ans approchant, j'avais envie qu'on rende hommage à Gilles pour le parcours incroyable qu'il a eu, parce que c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. On pourra en parler aussi un petit peu plus tard. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah, pour le guide de l'auto, il faut qu'on axe ça plus aussi, plus connaisseur de voiture, donc plus ses véhicules, qu'est-ce qu'il avait fait dessus, genre sa Mustang 67, il avait joué dans le moteur, qu'est-ce qu'il avait fait,
des choses comme ça. On ne parlait pas nécessairement de F1, là, mais plus de les véhicules qu'il a possédés quand il était au Québec. Il y avait un angle que je trouvais très intéressant dans le reportage.
Ouais, moi, je l'avais appelé les années Berthier parce que je voulais vraiment qu'on parle d'une époque moins connue de Gilles et de ses autos, qu'est-ce qu'il faisait avec, comment ça se passait. C'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Puis, alors que là, dans le balado, on couvre vraiment sa vie au complet. On démarre à sa naissance en janvier 50 et on va jusqu'à son décès et aussi après à ce qu'il a, ce qu'il a apporté. Puis, quelle trace il laisse dans la mémoire collective québécoise, absolument, mais aussi européenne ou italienne, puisque Gilles est encore aujourd'hui très, très aimé en Italie, par exemple. Ouais. Donc, c'était vraiment essayer de balayer tout ça pour obtenir quelque chose de beaucoup plus complet dans le balado.
Évidemment, il y a une aura autour de cette personne-là ici parce que c'est un petit gars de chez nous qui a percé à l'international. Moi, je veux avoir ton point de vue de jeune garçon qui a grandi en banlieue de Paris. Est-ce que tu connaissais déjà Gilles quand tu étais petit gars? Tu avais entendu parler des prouesses? Comment t'en es venu à t'intéresser au personnage?
Moi, en fait, tout est parti d'un livre qu'on m'a offert. Moi, au début, j'écoutais la F1 pas mal. J'écoutais Prost Senna, puisque années 80-90, c'était cette bataille-là qu'on voyait le dimanche. Puis après ça, moi, en fait, on m'a offert un livre à ma fête. J'avais 14 ans et c'était 50 ans de Formule 1, puisque 99, c'était les 50 ans de la Formule 1. Et donc j'ai commencé à lire aussi les années 50, 60, 70 et 80. Et c'est là où j'ai vu Gilles Villeneuve. Et déjà dans cet ouvrage-là, il avait une place très particulière. Et ça m'avait étonné parce que souvent, on te parle beaucoup justement de Senna, de Prost, de Jim Clark, de Juan Manuel Fangio. Mm-hmm. Des gens qui ont gagné 2, 3, 4, 5 titres de champion du monde.
Ce qui n'est pas le cas de Gilles, qui n'a jamais eu l'occasion de gagner. Il n'a jamais été champion du monde en F1.
Non, c'est ça. Puis surtout, si tu regardes juste son palmarès d'une manière très froide, ce que je me suis efforcé de faire, en fait, il a gagné 6 courses. Et il est monté sur 13 podiums. C'est pas tant que ça. Et même si tu regardes chez Ferrari seulement, son palmarès, il est correct. C'est pas du tout honteux. Mais c'est loin d'être le pilote le plus victorieux chez Ferrari. Puis t'as même des pilotes au sein même de Ferrari, comme Niki Lauda, par exemple, qui a eu 2 titres de champion avec Ferrari. Mais pourtant, si tu parles avec des Italiens, ce que j'ai eu l'occasion de faire, notamment pour le balado, de parler à un de ses mécaniciens, pour lui, le pilote, c'est Gilles.
C'est incroyable. Puis on sait, parce qu'on a vu ses prouesses en images, puis on en a entendu parler, on sait que c'était un pilote qui était très, j'ai le goût de dire téméraire, qui était peut-être cowboy. Fait que j'imagine qu'il y avait peut-être un attachement pour les gens parce que c'était quelqu'un qui donnait tout un spectacle sur le circuit.
Oui, ce que les Italiens aimaient beaucoup, c'était son côté latin, paradoxalement, mais c'était vraiment ce côté jusqu'au boutiste à dire, moi, en fait, dès que je monte dans ma voiture, puis je baisse la visière de mon casque, là, je donne tout à chaque fois.
Le sans calcul.
Exactement. Puis, c'est vrai qu'il y a des pilotes aussi qui ont tendance à mesurer leurs risques à des moments, puis à faire en sorte parfois de rouler très vite, d'autres fois temporiser un petit peu, gérer leurs courses, gérer leur championnat, assurer une 4e, 5e place, 6e place quand on peut pas faire mieux. Mm-hmm. Alors que Gilles, c'était vraiment tout donné, tout gagné, tout le temps, sans calcul. Et c'est vrai que ça le différenciait de beaucoup de pilotes. Et c'est ce que me dit notamment un journaliste français que j'ai interrogé pour le balado, qui me disait, c'est vrai que Gilles, il était complètement sans calcul. Alors que d'autres pilotes comme Hamilton plus récemment, ou Schumacher, ou Prost, qui était un spécialiste de
Même Niki Lauda était très cartésien. Là.
Exact. Puis Niki Lauda, à l'époque, on l'appelait l'ordinateur, c'est pas pour rien. Ouais. Puis même Enzo Ferrari, qui pourtant a gagné 2 titres de champion avec Niki Lauda, puis qui en a gagné 0 avec Gilles, a eu des mots bien plus doux envers Gilles qu'envers Niki Lauda.
Ah ouais, hein? Wow. Ben, tu disais justement, tu as rencontré plusieurs personnes dans le cadre de ce balado-là. C'est pas juste toi qui parles devant un micro pendant cet épisode. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrevues. J'ai déjà eu l'occasion d'écouter les 3 premiers épisodes où tu parles notamment avec son frère, Jacques Villeneuve, avec son cousin, Normand Coupal. Tu parles avec un ami d'enfance aussi, Daniel Hood. Je sais pas comment tu as réussi à trouver cette personne-là, mais on va vraiment dans le personnel. Là. C'est beaucoup la vie de Gilles, pas juste son ascension professionnelle, mais aussi comment il était en tant que personne, en tant que, oui, tripeux de char, mais en tant qu'humain aussi, qui a grandi au Québec dans les années, 60, 70?
Oui, lui est né en 50, donc moi, je démarre vraiment, on parle un peu de son enfance rapidement, mais on embarque avec l'adolescence, avec son ami d'enfance, adolescence, Daniel Hood.
Qui a des belles anecdotes
c'est
même,
incroyable.
C'est assez rigolo.
C'est très vivant, puis ça te dit beaucoup du Québec de cette époque-là.
Oui.
Aussi, quand ils te parlent, quand ils partaient tous avec leur muscle car, tu sais, Mustang, Firebird, Camaro, tout ça, puis ils partaient en fou sur les routes de Berthier, puis les policiers les arrêtaient, mais il n'y avait pas de point de démérite dans le temps.
Il y avait des étiquettes de 10$, ça se résumait à ça. Ouais.
Fait que, c'est incroyable, ça te ramène à une période, à une époque, des choses que tu pourrais plus faire aujourd'hui. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu prends 2, 3, 4 étiquettes de vitesse importantes, ou faire un gros burn-out. C'est ça.
160, tu perds ton permis.
Non, exact.
Ça va vite en tabarouette.
Tu peux plus faire ces choses-là. Ou son cousin qui me disait que, par exemple, il s'est arrivé qu'il teste ses voitures de course sur la route ouverte, là, dans le coin de Chambly. Aujourd'hui, essaye pas ça. Là.
Je ris, mais en même temps, c'est extrêmement téméraire, mais c'était une autre époque aussi. C'était beaucoup moins concentré en population dans les périphéries de Montréal, comme Berthier ou Chambly. Ça excuse pas le geste, là, mais bon, c'était, comme tu dis, c'était une autre époque. Mais bref, on sent vraiment ça dans la série de balado qui s'appelle À la poursuite de Gilles Villeneuve. Il y a un ton quand même très personnel aussi. Là. Tu t'expliques ta quête, pourquoi tu t'intéresses à Gilles comme ça. Puis je sais que je te connais bien, tu es un journaliste, tu es très factuel habituellement. Fait de t'entendre parler au jeu comme ça, c'est assez spécial. Est-ce que ça faisait partie du processus dès le départ? Comment on en est venu à ça?
Ben, c'est en parlant avec le monde de Cube Radio, notamment Bastien Gagnon La France, que je salue, qui m'a beaucoup aidé sur ce balado-là, parce que lui, en fait, m'a dit, en fait, j'aime ça ton histoire personnelle, puis j'aimerais ça qu'on la mêle à la quête de Gilles Villeneuve, puis qu'on prenne les gens par la main, puis qu'on leur explique tout ça à travers ce que toi, t'as fait étant plus jeune. Fait qu'on est parti là-dessus, et c'est vrai que pour moi, parler à la première personne, on le fait pas dans des articles habituellement. C'est sûr que c'est très, c'est un exercice différent, mais au début, c'est curieux, mais j'ai aimé ça, c'était le fun en vérité. J'ai aimé ça à la fin.
T'as fait beaucoup d'entrevues, t'avais déjà rédigé un dossier dans le guide de l'auto. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que t'as appris en travaillant sur le projet de balado au sujet de Gilles, que ce soit personnel ou professionnel?
Ouais, plus aussi sur qui il était, sur comment il interagissait avec les gens, parce que les gens m'en parlent beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Puis des fois, il y a des différences entre les personnes qu'il a pu rencontrer, parce que c'était parfois des amis très proches, d'autres c'était des collègues. Donc c'est pas les mêmes relations non plus. C'est des relations de travail ou des relations amicales. C'est pas du tout la même chose, évidemment. Ou la famille avec son frère.
Ouais.
C'est pas du tout le même type de relation. Mais c'est intéressant parce que par contre, tout le monde est unanime autour de l'aura qu'il avait et de cette manière de prendre les gens et ce magnétisme en fait très particulier qu'il avait. Tout le monde me le décrit chacun à leur manière, mais c'est vraiment ça qui ressort des gens à qui j'ai pu parler.
C'est rare quand même les sportifs qui transcendent leur sport là. Puis je te dis ça, on fait l'enregistrement, puis hier c'était les funérailles nationales de Guy Lafleur. Un homme qui définitivement a marqué son peuple beaucoup plus que, tu sais, ça va au-delà du hockey puis du Canadien de Montréal, là. Est-ce que, puis on le disait tantôt, Gilles Villeneuve est encore bien aimé en Italie. Je sais qu'il y a une rue à son nom. On lui rend encore souvent hommage. Est-ce que tu as l'impression que Gilles Villeneuve est apprécié à sa juste valeur au Québec?
Moi, je pense que les personnes qui ont connu cette époque-là en gardent un souvenir vraiment ému et se souviennent très bien du contexte aussi. Puis il y avait tout un contexte québécois aussi, fin des années 70, qui rejoignait un petit peu cet espoir national. Il y a quelque part un élan qu'il y avait. Et Gilles était un peu à la fin de cet élan-là, mais malgré tout, ça rejoint un imaginaire quand même très fort. Je pense que pour les très jeunes générations qui l'ont pas connu du tout, c'est peut-être un petit peu plus abstrait. C'est aussi pour ça que c'est bien de faire un balado et de rappeler qui il était. Et de voir aussi que c'est une personne qui a réussi à se rendre jusqu'au sommet de la Formule 1 en partant de zéro, littéralement. C'est quelque chose qui est très rare. Il y a peu de pilotes, et aujourd'hui, ce serait encore moins possible que ce qu'il a fait à l'époque. Mais il a pris des risques dans sa vie, des risques personnels, des risques financiers énormes.
C'est incroyable.
Pour ce rendre-là.
Il a carrément vendu sa maison.
C'est
je veux pas vendre de punch du balado, mais ça, c'est quelque chose que tu nous apprends. Il a vraiment tout mis sur la ligne très tôt dans sa carrière en disant « mais moi, je veux aller jusqu'en F1 », alors qu'il faisait quoi, des courses de motoneige. Il était même même pas proche de son objectif. C'est vraiment un gars qui est, en bon français, qui est allé all-in, qui a tout mis ses pions sur la même case, puis qui s'est dit « ben moi, c'est ça que je fais, ou sinon, je fais rien pantoute ».
Il faut croire aussi en tes compétences, en tes capacités.
Il faut avoir une confiance presque aveugle.
Absolument. Puis surtout, il l'a dit à beaucoup de ses amis qui m'ont dit « non, mais même jeune, il m'a dit « ah, moi, je m'en vais là-bas, je m'en vais en F1, c'est ça que je veux faire ». Puis il poussait. Mais c'est vrai que certains m'ont même dit « bon, nous, on y croyait qu'à moitié, parce que bon, OK, la Formule 1, mais c'est loin de Berthierville. Là. Nous, on est dans notre petit village. Berthierville, dans les années 70, là, on s'entend que c'est pas le berceau de la course automobile. Il n'y a rien pour faire de la course. Quelques pistes de drag, pas loin, mais c'est tout. Donc, c'est vrai que de réussir à forcer ton destin à ce point-là en disant « moi, il n'y a rien qui me destine à aller là, mais je vais y aller pareil », et de réussir en plus de ça, c'est quelque chose qui est quand même très fort.
Ouais.
En tout cas, moi, je trouve que c'est assez extraordinaire, surtout quand t'as pas d'argent, t'as pas de contact, tu connais personne. Et en dépit de ça, tu dis « c'est pas grave ». J'ai rien sur papier, il n'y a rien qui va m'aider, mais je vais y aller quand même. Puis ouais, comme tu disais, je mise tout ce que j'ai, ma maison, tout, je donne tout. Et il faut que ça marche.
Parce que les pilotes de F1 de nos jours, souvent proviennent de milieux aisés. Il y a des exceptions à cette règle-là, là. Mais je prends par exemple le pilote québécois qui est en F1 actuellement, qui est Lance Stroll. Puis je veux rien y enlever, là. Je veux dire, il pilote en Formule 1, il a assurément un talent quelque part, mais il a la chance d'être le fils d'une personne très fortunée qui est maintenant propriétaire d'une écurie. Gilles, c'était pas ça, là.
Non, c'est ça.
Il est arrivé dans la F1, puis c'était un peu comme un... J'ai un cheveu sur la soupe, il est arrivé, puis il y a personne qui poussait pour lui. C'est lui-même qui a travaillé pour se rendre jusque-là. Aider, tu le dis aussi dans le balado... incroyablement appuyé par son épouse aussi là. Ça prend quelqu'un qui a confiance aussi en son mari pour accepter qu'il vende sa maison.
Et c'est ça. Puis ça aussi, je le dis dans le balado, mais on peut le souligner effectivement, c'est que veut pas, quand il vend sa maison, tu sais, le petit Jacques, il a 3 ans, sa fille Mélanie, elle a 1 an, puis sa femme aussi vit là.
Ouais.
Et là, tu dis bon, moi, on vend la maison, terminé. Mais c'est quand même. Elle a aussi accepté ça, puis elle l'a suivi et soutenu pour faire ces sacrifices-là. Alors, ça a été payant par la suite,
ouais.
Mais ça aurait aussi pu ne pas payer. Donc, c'est vrai que tu as aussi bien des conjointes qui auraient dit « Écoute, tes affaires de course automobile, on va s'arrêter là. On a déjà des dettes, puis tout. Fait qu'on arrête ça, puis trouve-toi un job. »
Ouais.
Au contraire, elle l'a poussé à continuer. Fait que c'est sûr que c'est quand... D'ailleurs, Gilles l'a dit dans une entrevue à la fin des années 70, où il évoquait ça en disant « À un moment, j'ai failli tout arrêter. » Ça, je vends pas le punch, mais
okay.
À un moment, ça allait quand même très mal. Financièrement, notamment, c'était très compliqué. Puis il était à deux doigts que ça marche plus, il n'y a plus de commanditaire, il n'y a plus rien, c'était vraiment difficile. Et elle lui a dit, écoute, lâche pas, continue. Puis finalement, il a continué. Et il disait, c'est grâce à ma conjointe, c'est elle qui m'a poussé. Donc c'est vrai que je pense qu'on parle beaucoup aussi de Gilles, de sa détermination qu'il avait, mais il a aussi eu des soutiens quand même de la part de sa conjointe, de sa femme d'ailleurs aussi, qui n'est pas seulement sa conjointe, mais aussi des amis ou des gens. Pareil, je ne veux pas vendre le punch, mais providentiel qui arrive à un moment et tu sais pas pourquoi, mais tout à coup ils arrivent et ils disent je vais aider ce gars-là.
Ouais.
Il y a un truc qui me dit qu'il faut que je l'aide.
Une aura autour de lui qui te donne envie de le pousser vers.
C'est ça, parce que c'était des montants énormes. On s'entend, un montant par exemple, faire une saison en 74 en Atlantique, le boss de l'écurie Canada à l'époque lui demande 50 000 dollars. Si je te dis 50 000, tu me dis OK, bon, 50 000 dollars, c'est une belle auto, c'est de l'argent.
L'équivalent de 2022,
c'est 294 000.
Waouh!
T'as 24 ans, puis tu vends tout ce que t'as.
Tu viens d'un milieu modeste.
C'est ça.
Et son père était, tu te dis, je pense, au début, un petit background familial. C'est quoi déjà le travail de ses parents, juste pour mettre en contexte?
Séville Villeneuve accordait des pianos, c'était son travail. Il allait un peu partout au Québec pour accorder les pianos pour qu'ils sonnent juste.
Ouais.
Et sa mère était couturière.
Ouais.
Donc c'est sûr que c'est rien de déshonorant, mais c'est pas des gens qui avaient les moyens de lui payer une Formule Atlantique à 20, 30, 40, 50 000 la saison. C'était impossible. Donc, il s'en est sorti vraiment par lui-même. T'sais.
En tout cas, Julien, moi, je tiens à te le dire, la série de balado, pas besoin d'aimer l'automobile ou même la course automobile. C'est vraiment l'histoire d'un homme qui a vraiment tout mis sur la ligne pour réussir, qui a percé son domaine. Puis c'est une histoire qui, tu l'as dit tantôt, ça va faire 40 ans qu'il est décédé. C'est normal. Je crois que les générations plus jeunes soient peut-être moins au courant de ça. Comme Maurice Richard, étant plus jeune, on l'a pas vu en action. Fait que peut-être on en entend parler, mais on s'en souvient peut-être collectivement un petit peu moins. J'espère vraiment que les auditeurs vont aller écouter ta série de balado. Puis c'est un bel hommage, en tout cas, qu'on rend à Gilles Villeneuve. Bien content qu'on soit capable de diffuser ça. C'est produit par le Guide de l'auto avec Cube Radio. On peut l'écouter sur les plateformes de Cube Radio, donc l'application, sur le site web. Puis
même sur les autres plateformes,
sur
tu
les
peux
autres
l'écouter
plateformes,
partout.
Spotify, ouais. Apple Music, tout ça,
ouais, ça va être disponible partout. Oui, absolument. Puis je voulais juste ajouter une affaire. C'est que c'est aussi pour les gens qui aiment l'auto, évidemment, mais des gens qui sont moins spécialistes. J'explique beaucoup d'affaires aussi, plus du Auto 101, tu sais, pour les gens qui ne sauraient pas de quoi parlent les gens. Mais j'ai gardé quand même aussi des extraits plus gachar que les gens qui nous écoutent là maintenant connaissent bien l'automobile. Eux, ça va leur parler. Donc, je voulais essayer aussi de faire un peu le grand écart pour parler à tout le monde, tu sais, que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, mais que les connaisseurs aussi s'y retrouvent.
Parce que des fois, il y a des intervenants qui vont donner des termes spécifiques, puis effectivement, tu prends le temps après ça de dire bon, mais on arrête là, je vous explique qu'est-ce qu'il veut dire exactement, puis après, on repart. Fait que oui, effectivement, c'est assez. C'est très, très bien vulgarisé. Une série de balados qui va être disponible en 7 épisodes, donc il y a quand même pas mal de contenu. Les 2 premiers épisodes sont disponibles dès maintenant, puis les prochains vont être ajoutés là, au courant des prochains jours, prochaines semaines. Julien, merci beaucoup. On va certainement avoir l'occasion de retravailler ensemble d'autres dossiers qui s'en viennent, notamment le Guide de l'Auto 2023 sur lequel on travaille déjà.
Exact, j'ai déjà hâte.
Merci Julien.
Bye.